La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
La réalisation technique n'est pas au niveau aujourd'hui, mais on est bien. Deuxième partie de la midinale, et on accueille la snob au micro. Si elle nous entend, comme ça, un truc comme ça, tu nous entends?
Mais ouais, je vous entends, vous m'entendez?
Oui!
Parfait. Ça fonctionne. Ouais.
C'est cool. Je le fais en regardant la mer, ça vous va?
Comme d'hab, quoi.
Ouais, comme d'hab. C'est la dernière, je rentre après.
Donc voilà, on va s'informer autrement depuis Ouessant.
C'est ça. Et pour une fois, je vais faire comme tout le monde et je vais parler du Rwanda. En fait, je vais parler de la remise du rapport de la commission, dite commission Duclert. Donc, pour resituer, c'est il y a 2 ans, Emmanuel Macron mettait en place une commission de chercheuses et de chercheurs autour de la question du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ça, on en a déjà parlé plein de fois, tout ça. Et cette commission, c'était l'organisation de l'accès aux archives françaises de la période 90, donc le début de la guerre avec le Front patriotique rwandais, jusqu'à mi-94, la fin de la dernière mission française au Rwanda, l'opération Turquoise. Alors du coup, cette commission, elle était présidée par Vincent Duclert. Et dès l'établissement de cette commission, il y a 2 ans, ça avait suscité plein de polémiques autour de 2 questions. D'abord, les spécialistes éminents et reconnus sur le Rwanda en avaient été écartés. Et puis, on se questionnait beaucoup aussi sur l'indépendance de cette commission qui devait mettre à jour les responsabilités de l'État et de l'armée française tout en étant hébergée au ministère de la Défense. Enfin, c'était un brin douteux. Le rapport, il était attendu pour début avril, et en fait, il a été remis vendredi, le vendredi 26 mars, à Emmanuel Macron, et la presse s'en est fait largement écho. Le premier article qui est sorti, il est sorti dès le 26 mars, il a été publié par Le Monde. Au premier abord, quand on lit cet article, on se dit que les conclusions de la commission semblent être une avancée sur la recherche de la vérité historique. On y parle officiellement d'un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de l'État français, d'un aveuglement idéologique, d'une lecture colonialiste de l'Élysée. Les chercheurs et les chercheuses disent qu'il semblerait, enfin il s'agirait, attention, ouvrez les guillemets, la dernière défaite impériale de la France, d'autant plus grave qu'elle n'est ni formulée ni regardée. Donc au premier abord, donc, avec cet article du 26 mars, on se dit que la commission n'y va pas de main morte et que ces conclusions vont sans doute faire date pour l'établissement de la vérité. Et puis, quand on regarde un peu plus en détail les conclusions de ce rapport, le point le plus important, c'est que ça statue à pas de complicité de génocide. Je cite Le Monde qui dit « pas de complicité de génocide retenue par la commission ». Qui ne prétend pas à l'expertise juridique sur la question. Bon, on se demande bien pourquoi il la ramène, du coup. Le rapport des historiens, avec la distance du temps et l'appui des archives, va bien plus loin. Ah ouais, plus loin que quoi, en fait? Plus loin que, que cette accusation. Ben, en fait, ça va bien plus loin que toutes les autres tentatives d'enfumage qui ont été portées depuis 20 ans. C'est pas pour rien que Vincent Duclert fait la grande tournée des plateaux radio et des plateaux télé depuis vendredi. Il est assez génial à regarder. Il est très à l'aise. Il a une belle petite écharpe bleue qui n'est pas sans rappeler celle de Christophe Barbier. Un peu la même attitude. Il est vraiment très à l'aise. Il parle avec les mains. Il est volontairement rigolard et il explique ses conclusions avec une simplicité assez déroutante. Bah ouais, voilà, ça y est, on vous le dit. La France n'est pas coupable de complicité de génocide. Alors bon, il reconnaît des choses. C'est vrai qu'on est un peu raciste. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. C'est vrai qu'on a laissé mourir des gens. Mais on n'a pas fait exprès, parce qu'on voulait bien faire. Il y a des choses quand même ultra graves dans ce qu'il dit avec son petit ton léger et hyper à l'aise. C'est que ses accès aux archives, par exemple, un seul carton d'archives déposé de François Mitterrand pour toute cette période. Un seul. Ce qui est franchement douteux. Aucune archive déposée par Jean-Christophe Mitterrand, qui était conseiller Afrique à l'Élysée en ce moment. Alors, les journalistes, quand même, s'étonnent. Comment c'est possible qu'il y ait si peu d'archives? La réponse de Duclerc, elle est fascinante de précision. Enfin, je veux dire, c'est un gros, gros travail d'archiviste qui est fait là. Sa réponse, c'est « c'était une période où ça marchait très bien, les archives ». On parle des années 90, hein. Enfin, c'est donc déjà, cette réponse, c'est n'importe quoi. Et une commission qui se base sur des archives qui, finalement, n'existent pas, c'est un peu compliqué à tenir, mais bon, enfin, ça n'a pas l'air de trop dérouter. Il y a d'autres trucs qui sont problématiques. Par exemple, l'Assemblée nationale a refusé l'accès aux archives de la mission parlementaire de 98. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. L'ordre de la Légion d'honneur a refusé l'accès aux archives de tous les militaires français qui ont été décorés au Rwanda. Pourquoi ? Bah, on ne sait pas, parce que ça, peut-être ça viendrait nous embêter sur cette conclusion de pas de complicité de génocide. Et puis, il y a des choses bien plus graves. Bien plus graves, c'est on ne parle absolument pas du massacre de Bicêtre, qui est un massacre qui a eu lieu à la fin du génocide, en 94, et où les militaires français étaient informés, on le sait, il y a des documents qui existent, et ils ne sont pas intervenus. Ce massacre-là, c'est celui qui vient le plus mettre en doute le côté humanitaire de la mission turquoise, et qui est défendu. Hein. En réalité, on sait, par le travail de journaliste depuis 20 ans, que cette mission a surtout été une mission d'évacuation et de protection des génocidaires. On ne parle pas du tout non plus de Paul Baril, la barbouze officielle chargée de la Vandamme avant et pendant le génocide. Mais peu importe, il y a eu des fautes, ouais, elles sont lourdes et accablantes. On cite aussi une faillite éthique et morale. Mais enfin, de là à aller conclure à une complicité de génocide, il ne faudrait quand même pas déconner. Et du coup, c'est quand même interrogant. Cet article du Monde qui, à la fois, vraiment vient pointer des trucs lourds, hein, ils mâchent pas leurs mots, mais il y a un truc qui est plus frappant, c'est le ton vachement obséquieux qui est utilisé pour glorifier cette commission et surtout pour glorifier son commanditaire. Et son commanditaire, c'est Emmanuel Macron. On a l'impression que qu'il défend la vérité historique, qui vient porter la lumière. C'est une belle blague. Il y a un autre truc aussi, c'est que dans toutes ces conclusions-là, il y a des gens quand même qui sont pointés. Bon, il y en a un surtout, hein, c'est François Mitterrand. Et bon, ben, on va attendre un peu longtemps que le procès de François Mitterrand soit fait, hein, parce que ça n'arrivera pas. En tout cas, ce n'est pas l'État, quoi. Et au regard des réactions, on se rend compte que tout le monde a l'air bien, bien soulagé quand même de ses conclusions. Il y a l'association Survie, donc qui est une association de lutte contre la France-Afrique, qui le souligne assez cyniquement, et qui dit que même Hubert Védrine, qui est celui qui est le plus directement concerné, salue le travail de la commission. C'est dire si c'est une blague. Du coup, je vais lire le... Il y a un article qui a été publié par Survie sur leur site, où c'est survie.org. Il a été publié le 27 mars. Ça s'appelle « Décryptage du rapport Duclerc ». Une analyse superficielle qui exonère à tort l'État français. Survie a lu et analysé le rapport de la commission Duclerc sur les archives relatives au rôle de la France au Rwanda entre 90 et 94. En attendant la publication annoncée de milliers de documents, il n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux, mais occulte ou édulcore les questions les plus compromettantes. La commission se permet ainsi de conclure « responsable, mais pas coupable », au sujet d'une complicité qu'elle a par ailleurs évité d'aborder en ne travaillant que sur les archives. À ce titre, Elle fait pire que la mission d'information parlementaire de 1998, qui avait déjà contribué dans un exercice similaire à masquer la complicité de l'État français. La manière dont l'État français s'est engagé auprès du régime génocidaire étant connue et documentée depuis longtemps, ce rapport ne contient rien de véritablement nouveau. En travaillant à partir d'un matériau parcellaire, les archives versées uniquement, la Commission ne pouvait pas mener l'enquête approfondie qui aurait permis d'éclairer certaines zones d'ombre. Pour cela, il aurait fallu qu'elle croise les documents avec d'autres sources, témoignages en particulier, et qu'elle les confronte avec les travaux existants sur la question pour tirer les conclusions qui s'imposent. Des points cruciaux ne sont abordés que de manière superficielle, comme la formation du gouvernement intérimaire rwandais, la houlette de l'ambassade de France, ou l'abandon à leur tueur de 2000 Tutsis à Bicécéro, sans que la hiérarchie militaire ne donne l'ordre de les secourir. De plus, les aspects les plus controversés de la présence française au Rwanda sont occultés, comme le rôle éventuel joué par des militaires ou des mercenaires français dans l'attentat du 6 avril 1994 et dans la défense de Kigali entre avril et juillet 1994, les raisons de la présence officieuse de soldats français pendant le génocide, les livraisons d'armes pendant le génocide, l'ordre donné de réarmer les auteurs du génocide une fois ceux-ci passés au Zaïre, ou encore le soutien apporté par les autorités françaises au projet de reconquête du Rwanda par le régime génocidaire. Par ailleurs, en désignant les boucs émissaires, l'état-major particulier du chef de l'État et l'ambassadeur de France à Kigali notamment, la Commission attribue l'essentiel des responsabilités de la faillite de la politique française au Rwanda au président Mitterrand, aujourd'hui décédé, à ses conseillers militaires, à l'ambassadeur Georges Martre, sans qu'un lien soit fait avec la politique ordinaire de la France en Afrique. Pour finir, c'est une responsabilité accablante qui est évoquée, mais en rejetant toute idée de complicité. La Commission donne pour cela une définition très étroite de la complicité de génocide, selon laquelle le complice doit partager l'intention. La Commission exclut donc que les autorités françaises aient pu se rendre complices des auteurs du génocide. Cette définition est erronée. Se rend en effet complice celui qui aide le criminel en connaissance de cause, avec un effet sur le crime commis, sans pour autant partager son intention. À l'évidence, la Commission est sortie de son rôle d'analyse historique pour endosser un rôle politique au service du pouvoir. Voilà, donc ça, c'est l'article de survie. Il est assez clair. Mmh. Il y a un truc qui est questionnant, du coup. C'est quoi l'intérêt d'une telle débauche de moyens, d'une telle communication?
Bah, c'est fait. C'est fait et c'est plus à faire, du coup, quoi.
Ouais, il y a d'autres trucs aussi, parce que quand même, ça, oui, c'est fait et c'est plus à faire. Et puis tout le monde, au regard des réactions, hein, c'est ça, hein, tout le monde s'en lave les mains maintenant. Bah, vous voyez, on n'y est pour rien, quoi. Et il y a un autre truc, et c'est Survie qui le pointe très, très bien. C'est la mise en scène autour de Macron, de ce rapport et de cette commission. Et pour Survie, et pour d'autres, hein, ils y voient une pièce de plus à l'édifice macronien autour de sa stratégie de com', autour d'une refonte des relations de la France en Afrique. Une nouvelle France-Afrique. Et en gros, ils le mettent en lien, la publication de ce rapport, avec une réforme du franc CFA qui maintient la domination française là-bas, un rapport sur la restitution des œuvres d'art qui est complètement au point mort, et puis l'annonce là, d'une plateforme qui s'appelle Digital Africa, la Startup Nation, quoi, exportée sur tout le continent africain. Et en gros, ce que la commission, elle va dans le même sens que la conclusion là, c'est on a été un brin colonial, un brin raciste, un brin aveugle, mais pas coupable. Alors pourquoi ne pas continuer, quoi?
Voilà. Ouais, quand je lis le rapport un peu... vite fait, les conclusions. Ce que je comprends quand même, c'est... Autant il y a un travail historique quoi sur disons les archives auxquelles on a bien voulu leur donner accès.
Ouais.
Et donc quand même un retraçage de ce qui s'est passé. En tout cas avec des angles morts et tout, enfin que tu as déjà évoqué, mais après les conclusions, c'est que c'est assez je sais pas comment dire, intellectualiste plutôt que de s'attarder aux faits, enfin quelle est la part de complicité dans ce génocide de l'État ou des personnes individuelles qui composaient l'État, on t'explique que c'est parce que les gens se sont trompés.
Ouais, c'est ça.
L'État s'est
Ils ont fait
trompé,
croisade.
les administrations se sont trompées, les militaires se sont trompés.
Ouais.
Et bon, voilà, ils s'en sortent à bon compte, quoi. Ça arrive à tout le monde de se tromper.
Ouais, et puis ils se seraient trompés sur un truc une lecture ethniciste, tu vois. Presque ce qu'on nous dit, c'est que à cette époque-là, et presque c'était légitime. D'avoir cette lecture des ethnies, d'un combat entre des gens qui se massacraient. Et en fait, c'est en le disant comme ça, c'est de toute façon tout le discours de Védrine, c'est ça aussi. C'est dire, ben, aujourd'hui, avec le recul historique, on ne se tromperait plus. Sauf le rapport de la commission, il vient juste dire que, en fait, si, on est toujours prisonnier de ce truc-là. Enfin, tant qu'on n'aura pas fait la lumière vraiment sur la participation et sur globalement la politique de la France en Afrique, on sera toujours prisonnier de cette lecture. Et on s'en sort pas, quoi. Ça boucle.
Ouais. Bon bah voilà, hein.
Bah.
C'est quoi la suite sur
Alors,
le Rwanda?
La suite, c'est Kigali qui vient de l'annoncer. Là où en France on dit c'est presque historique, à Kigali ils remercient le travail effectué, mais ils annoncent que eux aussi vont sortir un truc pour avril.
Ok,
Et
donc à
puis
suivre en avril.
ça, et puis il y a Macron qui s'est engagé à aider la justice en sachant que la France, c'est le pays au monde où il y a le plus de demandes d'extradition de génocidaires. Et c'est le pays qui en accorde le moins. Donc en fait, aider la justice, ça veut dire aussi aider à ce que les gens soient jugés. Et en France, on ne le fait pas. Donc à voir. Et puis la suite, c'est Survie qui va publier des trucs, hein.
Ouais, et parce qu'il y a quand même des conclusions hein, à ce rapport, entre autres, qui sont assez peu évoquées en fait dans les médias qui parlent de ce rapport, qui se concentrent plutôt sur faut qu'il y ait le nom de Macron dans l'article, faut
Ouais,
qu'il
c'est
y ait
ça.
ce discours intellectualiste de la responsabilité, etc. Mais entre autres, il y a une des principales recommandations qui est faite, c'est de créer une position d'archiviste de la République française, disons, donc qui serait un peu comme le défenseur des droits, mais qui serait une personnalité indépendante capable de relever les problèmes d'accès aux archives, les problèmes de destruction d'archives, de
Ouais,
remettre en
ouais.
cause les classifications secret défense, etc. Et bon, c'est pas trop évoqué, quoi. Il y
Ouais, et
a... Ouais.
puis c'est un peu une blague en fait, parce que comme Survie le dit, la commission là, ils ont travaillé sur des archives auxquelles on avait déjà accès. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup aidé François Graner, par exemple, de Survie. Qui lui demande et qui s'est battu et qui a obtenu du Conseil d'État des consultations d'autres archives qui sont plus compromettantes. Et puis une commission d'historiens sur les archives, machin, pour faire toute la lumière. Hitler, le président de la commission, c'est lui qui a nommé les historiens qui bossaient avec lui. Et du coup, il est pas très crédible quand il dit ce genre de truc, puisqu'il aurait pu nommer des vrais spécialistes du Rwanda et il l'a pas fait.
Ouais,
En
bah
fait,
après,
c'est.
il y a une question sans doute de tutelle, quoi. Là,
Ah
ce qui est
ben.
proposé comme recommandation, c'est une autorité indépendante.
Ouais,
Enfin,
une
tu
autorité
vois,
indépendante,
plus ou
ouais.
moins
Ouais.
indépendante de l'État. En tout cas,
Mais
pas
qui.
directement sous tutelle du ministère des Armées, quoi.
Mais qui coûte rien sur le Rwanda, si tu veux.
Ah oui, spécifiquement sur le Rwanda, ça ne dit rien.
Ah non, c'est un bel enfumage, en fait.
Il y a dans le même genre, il y a une recommandation d'établissement d'un centre international pour la recherche et la documentation sur les génocides et les atrocités de masse. Qui est assez éthéré aussi comme proposition, parce qu'il ne s'agirait pas qu'on commence à regarder les responsabilités, ne serait-ce que de la France,
ouais, c'est clair.
Dans l'ensemble de ses responsabilités dans le monde, quoi.
Ouais, sur l'ensemble des œuvres génocidaires, quoi.
Ok, alors on va enchaîner. Est-ce que tu restes avec nous
Je vais
cette partie s'informer autrement.
Je vais vous écouter, mais je vais raccrocher puisque c'est mes derniers jours et la mer est vraiment très belle.
Très bien.
Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine en direct.
Ok, bisous.
Salut.
Salut.
Salut. Salut.
Alors, on va continuer avec Kat qui va nous présenter.
Alors, je voulais, comme promis,
deux choses.
Ouais, comme promis dans la première partie, on va écouter un petit extrait. Enfin, c'est même pas un extrait, en fait, c'est un reportage qui dure 5 minutes. Donc, c'est pas un extrait, c'est le reportage en entier. Qu'on trouve en accès libre sur Arte pour savoir qui est cette fameuse Bintou Dembélé que moi je ne connaissais pas et que Pierre Thévagnan, dans son article que j'ai lu tout à l'heure, nous conseillait d'aller. D'aller écouter. Donc on va écouter qui est cette femme.
Ceci n'est pas une performance de hip-hop. C'est une page d'histoire qui s'écrit sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Le jour où les danses hip-hop sont venues secouer les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, ode à l'exotisme colonial daté du XVIIIe siècle. Mais qui a osé faire ça?
C'est moi.
C'est aussi la première fois en 350 ans qu'une femme noire a chorégraphié un ballet dans la si prestigieuse institution de la danse. Mais ça, Bintou Dembélé s'en fout presque. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'elle raconte par ses gestes. Bintou Dembélé ne danse pas. Elle préfère dire qu'elle fait des gestes marrons pour honorer la mémoire des esclaves.
Le marronnage, à la base, c'est la fuite d'esclaves, des plantations, et qui recrée des sociétés nouvelles où il sait tordre la langue de l'oppresseur, du colon, et se réinventer une langue. Un esclave, il ne va pas dire oui, il va faire mm-hmm. C'est une manière de ruser, c'est une manière de fuir un petit peu l'oppression, c'est une manière de rester debout.
Rester debout, voilà qui résume bien l'histoire de Bintou Dembélé. Née en banlieue parisienne de parents sénégalais, c'est en se frayant un chemin de la rue à la Seine qu'elle prend la mesure des barrières raciales dans la danse.
Arrivée sur les plateaux de théâtre, je questionnais le fait que quand moi j'étais en MJC, je voyais toutes les populations, des Asiatiques, des Arabes, etc. Mais arrivé sur les plateaux, je voyais essentiellement un public blanc et des thématiques blanches occidentales.
Confrontée à l'exclusion, Bintou entame alors une quête de ses origines par la danse. De ZH, où elle s'attaque aux os humains, aux grimaces et torsions de strates. La chorégraphe pose aussi la question des origines et de la race au hip-hop en allant s'intéresser à sa genèse. Des recherches qui lui font prendre conscience que toutes ces danses hip-hop sont nées en réaction à des violences.
Le crump est né suite au tabassage de Rodney King. Quand je parle du voguing, par exemple, qui est une danse qui est peut-être en réaction aux violences policières suite à Stonewall dans les années 70. C'est une communauté queer, c'est des trans afro-américains et puis latinos qui n'en peuvent plus. C'est essayer de se faire un espace là où il y a de l'oppression, quoi.
Et en geste, ça donne quoi?
C'est des esquives. C'est une manière d'esquiver l'oppression, c'est des manières de groover. Pour moi, c'est groover malgré tout. Pour moi, c'est prendre l'espace malgré tout, en fait.
Et si on vous empêche d'avancer?
Mais moi, je vais tourner. Quoi qu'il en soit, je reste en mouvement. Et si je veux faire une mémoire aux esclaves, que je souhaite libérer, pour leur rendre mémoire. C'est ça ce que j'appelle une culture marronne, c'est malgré les guerres, malgré les violences policières, malgré l'invisibilité, malgré les non-dits, malgré l'esclavage, malgré le fait colonial, c'est de continuer à être debout, c'est de continuer à groover, à danser. C'est une manière de continuer à être en mouvement, en déplacement en fait, malgré tout.
Bintou Dembélé porte ce combat à l'Opéra en 2019, en déboulonnant le mythe du bon sauvage dans sa version des Indes galantes. Quand elle invite Crump, Walking, Voguing à danser la partition baroque de Rameau.
J'ai essayé de faire en sorte que les danseurs puissent s'autoriser à compter à travers leur danse, leur récit. Que finalement, cette musique-là puisse nous parler et qu'on puisse faire en sorte qu'elle s'adresse aussi à nous, quoi. Donc c'était comme beaucoup l'ont dit, on a pris la Bastille, quoi, et les gens se sont reconnus en ça.
Donc voilà, Bintou Dembélé, l'ennemi de l'article de Marianne. Maintenant, c'est un peu mieux qui est cette femme. Ouais, vous en aviez peut-être entendu parler, mais pas moi.
On rate un bout un peu quoi, du reportage sans les images, forcément, sur le chorégraphe.
Ouais, c'est sûr.
Mais il est disponible sur Arte.
Du coup, je voulais profiter, enchaîner un peu pour parler du milieu de la culture, donc qui est actuellement, qui occupe des lieux un petit peu partout et tout ça. Parce que elle, il y a un truc que je regrette, enfin que je trouve un peu bizarre d'un fois dans le milieu de la culture. Déjà de parler d'un secteur de la culture, c'est un peu délicat parce que tout le monde a une culture et il n'y a pas un secteur qui serait privilégié pour dire ce serait le lieu de la culture, quoi. Donc c'est souvent plutôt ce qu'on appelle le secteur culturel, ça va être le milieu des arts, reconnu comme étant des arts. Et elle en parle un peu quand elle parle dans le reportage là, du décalage aussi entre les MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, par exemple, et le secteur culturel. On peut voir souvent, il y a une séparation qui est faite, même au niveau de l'État, dans les ministères et tout ça, entre la culture légitime, on va dire, et puis ce qu'on va appeler l'animation socioculturelle ou l'éducation populaire quand on parle plus au niveau politique, on va dire. Et y a un gars qui réfléchit un peu à ça, qui s'appelle Jean-Michel Lucas, et il a un pseudo qui s'appelle Doc Casimir Bisou. Voilà, c'est un drôle de pseudo. Et je voulais vous parler d'un article qu'il a publié sur un site qui s'appelle Profession Spectacle, le MAG. Et il l'a publié le 17 mars 2021. Et ça s'appelle Culture, bien commun ou avenir commun. Est-ce qu'il est... Ouais, si, je peux vous lire des bouts. Alors, il écrit « J'ai entendu à plusieurs reprises que la culture était un bien commun et que les Français avaient tous hâte de retourner dans les salles de spectacle et les festivals. » Donc, il parle des revendications du milieu de la culture actuellement. « J'ai même lu que le secteur des entreprises culturelles était important à la cohésion de notre société. » Dans les moments si difficiles que vivent les personnes qui consacrent leur vie aux arts, est-il bien raisonnable de se bercer de telles illusions? Qui peut encore croire à de telles fables quand on se rappelle les statistiques de base depuis 50 ans sur les pratiques culturelles, ou plutôt les pratiques des arts des Français? Rappelons qu'en 2019, 57% des Français n'ont assisté à aucun spectacle. Donc ça, on parle avant la pandémie. Un bien commun qui passe à côté de tant de personnes est pour le moins suspect. En tout cas, s'il y a un commun quelque part pour la culture, ce n'est pas dans le spectacle vivant. Comment croire que la sortie de crise effacera cette indifférence majoritaire pour la fréquentation de spectacles? Peut-être imagine-t-on, dès la sortie de crise, les Français se précipiteront en masse dans les festivals? Sauf que les chiffres obligent à moins de sornettes, puisqu'en 2019 toujours, 81% des Français n'ont fréquenté aucun festival. Le bien commun ne passera pas par là. Comment croire qu'après la crise, les festivals deviendront si essentiels qu'ils seront envahis par 100% de nos concitoyens? En revanche, la minorité qui attend ces festivals avec impatience est celle qui espère la réouverture rapide des salles. Dans une étude sur les festivals, les personnes qui ont fréquenté ces festivals en 2019 ont, pour 89% d'entre elles, aussi assisté à un concert dans l'année. La culture est effectivement un bien commun, mais uniquement pour cette minorité de personnes qui la fréquentent. Donc, je vais peut-être passer là, disons, après, toujours dans les petits chiffres, comme ça, il dit, en 73, les cadres étaient 1,6 fois plus nombreux que les ouvriers employés à fréquenter des spectacles vivants une fois dans l'année. En 2018, ils étaient 1,9 fois plus nombreux. Donc c'est un écart qui se creuse en fait de plus en plus. Donc en gros, vous avez compris l'idée de l'article, c'est de dire que cette revendication-là, on ne peut pas dire qu'elle touche en fait tout le monde, et que voilà, la réouverture, tout ce qu'on entend sur la réouverture des salles, etc., c'est aussi des revendications de classe. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'aller au théâtre, et que moi je suis pour la liberté, que en gros toutes les personnes qui aiment aller au théâtre ou qui aiment aller en concert ou machin puissent y aller. Mais il faut pas croire que ce sont des revendications portant une sorte d'universalité, de choses, voilà. C'est remettre un petit peu à leur place ceux-là, quoi. Et du coup, ce que moi je me disais, c'est que, en fait, ce qui est peut-être plus intéressant aussi à dire pour les milieux de la culture, bah c'est déjà le fait que les revendications en tant que travailleurs et travailleuses de ce secteur, qui effectivement sont hyper précaires, et où il y a des grandes différences entre les travailleurs et travailleuses de ce secteur-là, où il y a des gens, une minorité de personnes qui gagnent très très bien leur vie et d'autres qui sont précaires tout au long de leur carrière. Et donc, moi, je serais plutôt... moi, je milite pour le salaire à vie, donc forcément, je suis plutôt sur le... Donc là, il faut une extension, on va dire, de l'intermittence, et donc des choses comme ça. Il y a aussi des revendications importantes, à mon avis, à porter autour de la marchandisation de la culture. Et donc ça, il faut faire attention. Et la remise en question des pratiques au sein du secteur dit culturel. Et là-dessus, il y a un syndicat qui est intéressant, qui a publié le 15 mars dans l'Humanité. Et je vais juste vous lire le petit chapeau. C'est le Syndicat national des arts vivants, qui regroupe quelques 500 compagnies de théâtre, art de la rue, marionnettes, danse, qui dit donc est solidaire du mouvement d'occupation des lieux de culture. Alors, oui, voilà. Alors, toutefois, Ce qu'ils disent, c'est que dans un appel que nous publions ci-dessous, donc je vous inviterai à le lire plus en détail, le CINAVI, donc ce syndicat national des arts vivants, estime qu'un retour à l'anormal, un retour au fonctionnement d'antan, d'avant le Covid, des établissements culturels ne répondra pas aux besoins de repenser ces outils de création et de diffusion. Il interpelle ainsi la profession et juge opportun de profiter de cette crise pour repenser l'usage et le fonctionnement de ces lieux et d'ouvrir grand les portes des théâtres aux compagnies indépendantes. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant de pas dire où en fait on veut juste réouvrir et retravailler comme on faisait avant, mais travailler plus largement à qu'est-ce que c'est en fait le secteur de la, ce fameux secteur de la culture. Et du coup, en lien avec ce sujet-là, je vous conseille d'aller écouter un podcast produit par Radio Piquès qui s'appelle « C'est quoi les droits culturels ?». Il vient de sortir et en fait, il, dans ce podcast, on essaye de... L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que ces fameux droits culturels. Donc en fait, c'est des droits qui ont été inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948 qui sont très peu connus et qui ne sont pas utilisés dans les revendications du secteur culturel, mais même... il pourrait être revendiqué par exemple par le milieu de l'éducation populaire, mais en fait ils le sont pas. Ça met en place une définition de la culture qui est bien plus large que les arts. C'est vraiment les modes de vie, et c'est reconnaître que tout le monde est porteur d'une culture, qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Et du coup, ça modifie beaucoup la politique qui devrait être mise en place à partir de l'idée de ces droits. Donc voilà, et donc Jean-Michel Lucas, qui a écrit l'article juste avant, dont je vous ai lu des passages, est un militant des droits culturels notoire.
Qu'on entend dans le podcast.
Et qu'on entend aussi dans le podcast. Voilà, je crois que c'est à peu près... Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Si, mais c'est vrai qu'il y a une... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, il y a une petite gênance, quoi, autour des revendications de ce milieu culturel, disons, à reprendre comme avant. Alors, on voit les mécaniques de pouvoir entre les gros et les petits, entre les indépendants et les très subventionnés. On voit les gens... qu'on n'a pas grand-chose à secouer, que ce soit populaire ou... Voilà, tant que ça reprend comme avant. Donc c'est... Bon, c'est intéressant. Moi, c'est pas le domaine dans lequel je me sens le plus compétente, de toute façon, quoi. C'est vrai que, pour avoir essayé d'en causer un peu avec soit des gens concernés, parce qu'en gros, c'est leur gagne-pain, quoi, en gros, soit ils bossent là-dedans, ou alors avec des gens qui veulent pouvoir retourner, quoi, consommer, peut-être pas le bon mot, mais consommer du spectacle, en tout cas retourner au Quartz ou au théâtre ou machin, c'est compliqué d'avoir cette conversation de « il faudrait pas que ce soit comme avant » et... Ouais, là, faut que ça recommence, quoi, et pareil qu'avant. Et le cinéma pareil, et la musique pareil. Bon. Alors que, moi, par exemple, ça me faisait penser à un des trucs. Je crois que c'est l'Opéra de Paris, là. Où on avait passé un bout dans la Midinale. Je pense que c'était autour du mouvement contre la réforme des retraites. En fin d'année dernière. En fin d'année encore avant. Où en gros les travailleurs, travailleuses du théâtre étaient mobilisés, et c'était arrivé dans plusieurs milieux culturels comme ça, enfin lieux de spectacle, étaient mobilisés contre la retraite et contre la réforme des retraites, et donc annuler les spectacles ou des choses comme ça. Et il se faisait huer, pourrir par les gens qui étaient dans la salle, venus consommer quoi, leur spectacle de théâtre ou l'opéra ou machin. Bon, c'est une histoire de classe sociale quoi, entre les consommateurs et les producteurs de ce contenu-là. Mais c'est ça, il faut surtout pas que ça recommence comme avant, quoi. Ça semble évident. Ouais. Et en plus, le fait que là, il y a un moment pour reprendre les choses à la base, disons, il paraît évident aussi. Et pourtant, on se heurte à un mouvement dont les revendications semblent être il faut reprendre comme avant.
Ça me fait penser ce que tu dis à... je crois que c'était au Festival d'animation d'Annecy où il y avait eu une intervention surprise de Gilets jaunes et il s'était fait huer, mais genre oh putain, comment hostile en fait interrompre notre moment de grâce quoi, culturel et tout.
Ouais, et de grâce, et on a payé, c'est ça qui.
Ouais, c'était assez choquant en fait comme le différentiel là, de classe et puis de. C'était hallucinant quoi. Et je crois. Je me rappelle plus ce que c'était le film après, en plus, le d'animation. Mais je me demande si c'était pas un truc un peu...
Social, quoi.
Ouais, en plus. Et, oh putain, merde, ils font chier, là, leurs mouvements sociaux, on peut pas voir le film social d'après, ou enfin, voir le film d'après, tu vois, bon, c'était... c'était grave.
Ça me fait juste penser que c'est... Je crois que c'est sur la chaîne de Le Média que j'ai vu ça. Il y a une courte vidéo sur des personnes du secteur de la culture qui sont interrogées. Et puis il y a Corinne Massiro ou quelque chose comme ça.
Massiro.
C'est ça. Massiro. Je ne sais plus. Une actrice qui a dû... Alors, je ne sais pas si c'est... quel grand moment du
truc
de cinéma, elle est venue à poil, je crois, oui. Et puis...
Alors, je peux décrire vite fait.
Ouais, vas-y.
Allez. Quoi ?
Non, rien, t'as l'air avide de décrire, c'était un
non,
grand
non, mais
moment.
C'est parce que je regardais ça en direct. Donc, elle est arrivée, en fait, en peau d'âne, donc vraiment avec la tête d'âne au-dessus de la tête, quoi, et puis comme une cape en peau d'âne, voilà, donc faisant référence évidemment au film de Jacques Demy, et avec du sang partout, mais vraiment en mode gore, machin et tout, donc elle a fait tout son speech et tout, il y avait comme un moment de gêne, voilà, bon, c'était... Et après, elle a commencé à enlever sa peau d'âne. Là, je sais pas si elle était directement à poil ou il y avait peut-être encore un truc, une tenue. Et là, elle l'a enlevée, elle a fini à poil. Et avec, après, en se retournant dans le dos, il y avait écrit « Rends l'argent ». Voilà. Et donc, petit moment de gêne au César. Et puis, puis elle est partie en disant à la présentatrice qui était Marina Foïs, bon... Salut, à la prochaine. Enfin, je sais pas si je serai invité. Et là, t'as dit, pourquoi pas. Enfin, voilà. Mais bon, on va dire que la cérémonie était quand même marquée par 3, 4, 5 interventions, voire quasiment à chaque prise, enfin, à beaucoup de prises de parole par quand même la question sociale et ce qui traverse actuellement le métier, quoi. Et puis en soutien aux intermittents, par rapport à la cause noire, par rapport à... Enfin voilà, un peu tout. Là vraiment c'était très social comme cérémonie, ce qui changeait quand même un peu d'habitude.
Et ce qu'elle racontait dans cette vidéo-là, c'est que donc elle a eu énormément de messages de soutien, suite à ça, mais elle a aussi eu énormément de messages d'insultes. Et tous ces messages d'insultes quasiment portaient sur son physique, en disant en gros, on veut pas voir des seins qui tombent, de la peau qui machin à la télé. Voilà, et notamment du milieu du cinéma.
Ouais, pas de outré, femme de plus outré, de 25 ans à poil, quoi.
Voilà, c'est ça. Outré de voir un corps. Non lisse et parfait. Alors.
Et elle a eu tous les réacs sur le dos aussi.
Bon, c'est pas certains étonnant, même ça, qui avaient applaudi la performance de je sais plus quel artiste qui s'était mis à poil devant la ministre ou le ministre de la culture à un moment. Ouais. Je sais plus c'est qui ce gars-là. Et pour signifier la condition des intermittents du spectacle. Et à l'époque, ils applaudissaient, mais du coup, quand c'est une femme qui le fait, c'est plus la même que si c'est un homme. Enfin,
le corps des femmes, c'est pas pareil. Hein.
Il y a un truc comme ça. Après, c'est vrai que il y a malgré ça, ils sont le monde de la culture, ben c'est large, il y a beaucoup de choses, mais quand même ils sont vachement prompts pour certaines revendications, mais la revendication vraiment sociale, enfin je veux dire, on a vu hein, quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, ils étaient où le monde de la culture, mais vraiment, et le temps qu'ils ont mis à réagir, et genre ils ont réagi à la fin quoi, donc on voit, et je pense que c'est une évolution qu'il y a eu. Vraiment qui peut être illustré par le camarade Renaud ou d'autres, voilà, où on voit quand même qu'il y a un glissement et qu'il y a un décalage quoi, carrément quoi. C'est-à-dire que pour tout ce qui va être revendication LGBTQIA des minorités ethniques, c'est ok, mais par contre pour ce qui est de la revendication populaire, ça a plus du mal hein. Voilà quoi, c'est
Bah, on est entre gens de voilà, dans la haute culture comme au César, maintenant on est entre gens de bonne compagnie, de bonne famille, et au final je pense pas qu'on puisse dire non plus qu'il y ait des revendications qui passent plus, et une fois qu'elles sont édulcorées que ça passe quoi, donc passer par le monde de la culture, validé par des personnes qui ont le pouvoir symbolique de les valider ou machin, mais bon, en tout cas c'est pas super populaire ouais comme milieu. C'était pas très très gilet jaune. Alors je pense qu'on a terminé cette deuxième partie. J'avais un petit truc, mais ça sera pour la semaine prochaine, un petit peu mieux préparé que ce que j'aurais fait là. Et du coup, on va avoir un nouveau rap de Dinja. Si t'es prêt ?
Oui.
Après une petite pause, un petit son de Mindzone Willem, et on se retrouve pour la dernière partie, agenda et tout et pas rien. Bam.
Dans ma tête, je suis dans un manga, ou bien dans le couloir de la mort. Dire que les plus grandes guerres du monde sont juste parties d'un désaccord. Et vu tous les plans que j'élabore, je vais tout péter, tout ça avant que mon âme s'évapore. J'ai qu'un essai, faut filer le mic à la jeunesse, genre Jérémy et Lucas, badaboum dans la lucarne. Et le pire, c'est que je suis qu'à 20% de mes capacités. C'est la réalité, les politiques s'y connaissent plus en documents falsifiés, hein. À quoi bon faire la loi quand tu peux toi-même la désobéir? Dans mon lit, y'a Clara, Julia, y'a aussi Ophélie. Je t'ai menti, y'a qu'une fille pour qui je pourrais donner ma vie. C'est fini l'époque où le matin on bouffait de la dacatine. Tu m'envies, mais je suis dans le vide, ouais, je suis en vie. Merde, ce monde part en vrille, frère. Rien qui laisse des humains dehors en plein hiver, manipulé par le système. Tu penses rien pouvoir y faire. Gros, tu peux le faire, poteau. On est tous frères, poteau. Tu seras toujours le même, que ce soit Dunkerque ou Porto. Si t'as la flemme pour ça, c'est que t'as la flemme pour tout. T'as plus de chances de sauver ce mec que de gagner au loto. Yeah, je suis dans la lune, t'inquiète, j'ai capté leur vice. J'écris sur des classiques, poteau, ouais, sur du Miles Davis. Hein, t'es qu'un mytho. Quand tu dis que tu comptes le bénéfice, hein, tu deviens chelou, donc logique, je prends mes distances. Yeah, je suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. On est fort, donc on s'en sort. Le regard de ma gomme en sorcelle, posé dans mon jardin secret, dégage de ma parcelle. Je trouve pas de taf, pourtant l'intérim, je l'harcèle. Mais le destin fait bien les choses. J'écris pour moi et la MIFA, j'écris pour les vrais, pas les faux, non. Fuck, hein, je suis trop fuck top. Je fais plus de polémiques que Burkini et crop top. Regard dirigé vers l'horizon, je me demande que le futur me réserve. Tu crois que les choses assez risible, y'a pas de majeur dans les rizières. Trop de familles dans la misère, alimente les comptes des ministres. C'est sinistre, toi t'as pas eu l'iPhone donc t'es vénère. L'argent fait le bonheur, non l'argent fait les pourris gâtés. J'suis flatté d'être né dans une famille qui est même pas aisée. J'bouffe la prod c'est easy, toi t'as plus rien à miser. Obligé de prendre la concu de leur foutre des fessées hein. Et j'ai la détente facile, quand j'rappe je les fascine. Ils le savent pas mais c'est moi la deuxième extinction massive. J'écrase tes points des gencives, concu de rendre agressive. Tout ça pour te prouver que c'est moi le meilleur imbécile. Nouvelle génération, j'suis bon qu'à choquer les anciens. Et comme François Fillon, j'foque la France et j'vole ses biens. Je peux rapper sur tous vos samples. Je suis tellement fort qu'à mon effigie on construit des temples. Boy, yo. Yeah.
No.